Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un appel urgent au don du sang. Il manque un tiers des poches nécessaires dans les réserves, du jamais vu selon le ministre de la Santé. Le Covid a tout bousculé. Reportage à suivre au sein d'un centre de collecte déserté. Des professionnels du BTP devant la justice à Angers. Procès pour homicides involontaires, 5 ans et demi après l'effondrement d'un balcon en pleine soirée étudiante. 4 jeunes en sont morts. Dans ce journal, nous serons aussi en Ukraine où l'armée recrute des réservistes à tour de bras face aux menaces russes. Et à Pékin où la star américaine Michaela Schifrin est complètement à côté de ses skis.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le président des éditions Gallimard, Antoine Gallimard.
France Inter.
L'établissement français du sang parle d'une urgence vitale.
Oui, ce n'est pas la première fois que l'EFS lance des appels aux donneurs de sang, mais rarement la situation a été aussi critique. Sur les 100 000 poches nécessaires en permanence, il en manque aujourd'hui 30 000. On est en dessous des seuils de sécurité, à tel point que le ministre Olivier Véran lui-même alerte sur Twitter, parlant de réserves historiquement basses. La faute surtout à la crise sanitaire qui a tout désorganisé, mais les besoins, eux, sont bien là. Les opérations chirurgicales déprogrammées ces derniers mois vont reprendre et les médecins sont très inquiets. Mathilde Dehimi a pu s'en rendre compte dans un centre de collecte à Paris. Reportage.
La situation est bien pire que pendant le confinement.
Les fauteuils, vous voyez, sont tous vides là à l'instant.
Le directeur de l'établissement français du sang d'Île-de-France accuse le coup. Jamais en 20 ans d'existence, les stocks n'ont été aussi bas, s'inquiète Stéphane Noël.
La situation est aujourd'hui critique. Les quantités de produits sanguins disponibles dans chacun de nos sites est insuffisante pour couvrir l'entièreté des besoins. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'en Île-de-France, nous sommes amenés pour certaines interventions non urgentes de réduire un petit peu les quantités de produits sanguins que nous délivrons pour certains patients.
C'est intenable à long terme. Des interventions pourraient même être en péril, alerte Stéphane Noël. Le Covid a déstabilisé la collecte. Salles municipales réquisitionnées pour la vaccination, télétravail, cours en distanciel à la fac ont fait chuter de 30% les collectes mobiles d'Île-de-France.
La crise Covid a eu des impacts sur les donneurs. Certains sont tombés malades. Certains, notamment dans la vague Omicron, ont dû prendre en charge leurs enfants. Tout ça a bien évidemment généré de l'absentéisme sur nos collectes.
Anthony est l'un des seuls donateurs couché, bras tendu.
J'ai quelqu'un de ma famille qui a eu besoin de sang il y a quelques années, donc du coup, je me suis mis à venir donner tous les 2 mois. C'est important de prendre un peu de temps pour les autres. À domicile, aller-retour et le temps de donner 1h15.
Son don permettra d'aider 3 malades.
Et on rappelle que le pass vaccinal n'est pas nécessaire pour donner son sang, pas besoin d'attendre non plus pour donner après un vaccin anti-Covid. Le pass vaccinal que viennent d'abandonner 2 des 10 provinces canadiennes, peut-être sous la pression du convoi de la liberté. 400 camions qui bloquent toujours le centre-ville de la capitale, Ottawa, contre les restrictions sanitaires. 1/4 des chauffeurs sont venus avec leurs enfants, ce qui complique l'intervention de la police. Et le mouvement fait tache d'huile, notamment en France. Des particuliers s'organisent en ce moment pour rejoindre Paris en voiture d'ici à vendredi soir. Des départs sont prévus aujourd'hui de Nice, Bayonne ou encore Perpignan contre le pass, mais aussi pour le pouvoir d'achat.
Il est 7h33, un balcon qui s'effondre en pleine soirée étudiante.
C'était le 15 octobre 2016 à Angers. 4 morts parmi des jeunes réunis dans un appartement du centre-ville. Le procès s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel pour homicides et blessures involontaires. Sur le banc des prévenus, 5 responsable de la construction de cet immeuble. Gaëlle Joly.
Le soir de la crémaillère, Théophile et sa petite sœur Lou prennent l'air sur le balcon au 3e étage quand il s'effondre vers 23h. 18 jeunes sont entraînés dans sa chute. Lou n'y survivra pas. Aujourd'hui, son frère veut des réponses. Son avocat, maître Louis-René Pénaud.
C'est un triple deuil en réalité pour lui parce qu'il a perdu sa sœur, mais il a aussi perdu ses 2 meilleurs amis, des jeunes gens qu'il connaissait depuis qu'il avait 5 ou 6 ans. Il attend avec beaucoup d'impatience d'entendre ce que vont dire les responsables de ce drame et il attend peut-être une vérité judiciaire.
5 personnes sont mises en examen. Notamment l'architecte et l'ancien gérant de l'entreprise de maçonnerie, Patrick Bonnel, son avocat maître Pascal Rouillet.
Il y a beaucoup d'inquiétude à l'idée de devoir se présenter dans un procès de cette dimension avec cette accusation terrible. Ensuite, il y aura une tentative de comprendre ce qui a pu se passer, pourquoi ce bâtiment présente ses faiblesses au départ, pourquoi il s'est dégradé sans que les professionnels qui étaient en charge de la gestion du bâtiment ne réagissent, pourquoi n'a-t-on pas fait les menus travaux travaux qui auraient permis d'éviter le drame.
L'instruction a pourtant écarté cette hypothèse, pointant du doigt des malfaçons dans la construction de l'immeuble et de ses balcons. De nombreux experts vont venir défiler à la barre.
Et ce procès doit durer 3 semaines. Il y aura passé 2 mois. Claude Guéant doit sortir aujourd'hui de la prison de la Santé à Paris. L'ancien ministre de l'Intérieur a bénéficié lundi d'une libération conditionnelle. Selon son avocat, il a désormais complètement payé les sommes dues au Trésor public après sa condamnation dans l'affaire des primes en liquide de la place Beauvau. Quel bilan pour la plateforme anti-discrimination. Cela fait tout juste un an qu'elle a été lancée par les équipes du Défenseur des droits. Depuis, elle a reçu 14 000 sollicitations via le 3928 et le chat sur Internet. Plus de la moitié d'entre elles ont débouché sur une saisine et un traitement par des professionnels. En tête des plaintes, les discriminations en raison de l'origine et du handicap, même si les situations traitées sont très variées, Claire Chaudière.
Il y a 10 mois, Thierry saisit la plateforme via son chat. Il vient de tomber, en faisant des recherches pour son fils, sur une annonce pour un petit boulot d'été publié sur le site de sa commune. Mais l'emploi est explicitement réservé aux jeunes ayant la nationalité française. Il tique, c'est illégal.
Sur le formulaire, il y avait un critère de nationalité, donc ça me semblait bizarre. Je n'arrivais pas à me l'expliquer, ça me semble discriminatoire.
Un rappel à la loi est effectué, l'annonce corrigée. À chaque jour, son cas très concret, explique la juriste Diane Goulas.
Étudiante qui nous avait sollicité parce qu'elle avait des problèmes d'aménagement au vu de son handicap dans ses études. On a pu lancer un règlement amiable. Elle est arrivée à trouver une solution. Des petites victoires comme ça.
Petite victoire aussi pour plusieurs personnes transgenres en conflit avec leur banque pour un changement de prénom. Beaucoup de situations liées au logement, parfois sans équivoque.
Un propriétaire écrit dans son mail, dans un texto « Non, je ne veux pas vous louer parce que vous êtes de telle origine. »
Certaines sont tout de même plus insidieuses. Mais cela ne doit pas pour autant décourager d'appeler le 3928, assure-t-elle, pour tenter de dépasser justement le stade du ressenti et aller, c'est souvent possible, vers un règlement à l'amiable. 60% d'entre eux ont abouti favorablement en un an ou en justice.
Claire Chaudière, la manifestation des hijabeuses à Paris, interdite par la préfecture de police. Ce collectif de footballeuses donnait rendez-vous cet après-midi aux Invalides pour le droit à porter le voile dans les compétitions sportives, alors qu'une proposition de loi sur le sport est de retour à l'Assemblée. Mais selon les autorités, il y a un risque pour l'ordre public avec la venue attendue de soutien mais aussi de contre-manifestants hostiles. Le collectif a saisi la justice. Il recouvre 70% de la surface du globe mais reste mal connu et surtout mal protégé. Brest accueille à partir d'aujourd'hui le premier sommet mondial uniquement dédié à l'océan. Des ONG, des entreprises et une vingtaine de dirigeants sont attendus d'ici à vendredi. Acidification, réchauffement, comment sauver les océans? La France espère des engagements, mais des puissances maritimes brilleront par leurs absences, la Chine et la Russie notamment. Dossier complet dans le journal de 8h. C'est à Berlin hier soir qu'Emmanuel Macron a achevé son marathon diplomatique sur l'Ukraine. Le président français aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, mais aussi du polonais Andrzej Duda, pour afficher l'unité européenne et éviter une guerre sur le continent, selon leurs propres mots. Malgré ses promesses de dialogue, de désescalade, cet activisme diplomatique ne rassure pas vraiment les Ukrainiens. À Kiev, on se prépare d'ailleurs à toutes les éventualités. C'est le reportage de Benjamin Ely.
Un bureau de recrutement dans le centre de Kiev.
Il dit que chaque 3 minutes à peu près, il y a des appels.
Ça sonne. Allez-y. Ici, comme partout dans le pays, le gouvernement veut mobiliser les civils, au moins 130 000, des réservistes. Si la guerre totale éclate, ils iront soutenir les forces armées. Sherbina Mikhailo Yuryovitch, directeur adjoint de la sécurité municipale à Kiev.
Nous allons constituer à Kiev la plus grande brigade de défense territoriale du pays. 10 bataillons qui représentent 6000 personnes. Tant que Poutine est là, nous sommes menacés et les visites des Européens, ça nous donne seulement un peu de répit et nous laisse le temps de nous préparer.
Eux, ils sont déjà prêts, les membres de la Légion ukrainienne, des vétérans de la guerre dans le Donbass pour certains. Leur style très peu diplomatique, leur cible, Vladimir Poutine.
Son nom de guerre, Mech, c'est-à-dire le sabre.
Selon lui, aucune personne civilisée dans ce monde ne doit négocier avec Poutine. C'est comme un ours colérique qui possède l'arme nucléaire et qui menace le monde entier. Vous savez, les Russes n'auront pas affaire à des centaines de personnes, mais à des millions. Ils ont réveillé le dragon.
Eh
bien, messieurs les dragons,
Merci. Diakonio.
Benjamin Illy, envoyé spécial en Ukraine. Les envies de syndicalisme peuvent coûter cher chez Starbucks aux États-Unis. La chaîne de café vient de licencier 7 salariés d'une succursale de Memphis. Ils cherchaient à adhérer au tout premier syndicat créé dans le groupe. La direction de Starbucks se défend de toute action antisyndicale. Selon elle, ses employés sont limogés car ils ont laissé entrer des journalistes dans leur café en dehors des heures d'ouverture. Une info pratique si vous nous écoutez à Lyon et ses alentours. Une grève perturbe fortement aujourd'hui les transports en commun lyonnais. 2 lignes de métro, 3 lignes de tramway et certaines lignes de bus sont fermées toute la journée. Sur les autres, il n'y aura plus aucune circulation après 19h30. Les syndicats s'inquiètent pour la gestion du réseau après 2024.
Et nous partons pour Pékin, Alexis, où une star des jeux du ski passe complètement à côté de ses jeux.
Michaela Schifrin, l'américaine, qui enchaîne les contre-performances au JO. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Alexis.
Déjà éliminée du géant lundi, elle est sortie ce matin dès la première manche du slalom.
Oui, Michaela Schifrin, assise au bord de la piste, à quelques mètres de la cinquième porte du slalom, là où tout s'est arrêté, la tête dans les genoux, prostrée de longues minutes, inconsolable, malgré le réconfort de son entraîneur. Image insolite pour cette immense championne aux 2 titres olympiques à Sochi et Pyeongchang, 6 titres mondiaux, 11 globes de cristal, 73 victoires en Coupe du Monde, prodige de régularité, elle qui gagne une course sur 3 depuis le début de sa carrière. Mais ces jeux ne se déroulent pas comme elle le voulait, elle est déjà sortie de la piste du slalom géant il y a 2 jours, et cela se reproduit aujourd'hui. Michaela Schifrin en pleure une fois redescendue.
La pression est très forte, évidemment. J'ai envie de bien faire, mais je suis très nerveuse. Je sais que je vais retrouver mon ski. C'est pas la fin du monde.
It's not the end of the world and it's so stupid to care this much, but I...
Je me sens idiote de pleurer. Je vais devoir me poser les bonnes questions maintenant.
I have to question a lot now.
Une énorme pression qui fait aussi ressortir la tristesse, dit-elle, d'avoir perdu son père, Jeff Schifrin, mort d'un accident, accidentellement, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour.
Guillaume Batin en direct de Pékin avec les moyens techniques de Romain Luquien. Ça suivre ce matin au JO, une épreuve spectaculaire, le snowboard cross. Les concurrents partent 4 par 4 sur une piste aux allures de toboggan. 4 Françaises sont en lice avec de bonnes chances de médailles, Nicolas.
Merci Alexis Morel. L'édito politique, Thomas Legrand, à suivre.